un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 221 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis sont invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Fresh paint, beats eat pour des journées captivantes.
Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres.
Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonsoir, bienvenue à Pop en Stock, l'épisode 80. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir, nous allons parler de Anne, la maison au pignon vert. Je suis vraiment très contente de parler de cette série, Anne of Green Gables, aussi connue sous le nom Anne of Green Gables, une de mes grandes passions de jeunesse, qui fait vraiment beaucoup partie de l'univers des jeunes filles au Canada et même mondialement. On va aussi parler de cet aspect. Et je suis entourée pour cet épisode de deux autres fans, et je suis très heureuse de les accueillir ce soir. Rachel Hippolyte, enseignante, maintenant une chroniqueuse habituée de Pop en Stock. Bonsoir, Rachel.
Bonsoir, Hélène.
Et Clara Brunet-Turcotte, une écrivaine, poète et artiste visuelle qui est également une grande fan de Anne. Ça va bien, Clara?
Oui, ça va très bien, toi?
Super, oui, ça va bien. Juste pour résumer un peu la série, tout d'abord, parce que c'est pas tout le monde qui l'a lu. Anne, la maison pignon vert, c'est un roman qui a été publié en 1908, écrit par Lucy Maud Montgomery, une prince édouardienne. Et ça raconte l'histoire de Anne, une jeune orpheline qui a été envoyée par erreur à la ferme des pignons verts. Pour assister, finalement, Matthew et Marilla Cuthbert, deux frères et sœurs vieillissants qui ont de la misère, en fait, à s'occuper de la ferme. Et, en fait, ils demandent un jeune garçon. Et c'est une jeune fille qui est envoyée, une jeune fille rousse. Et elle n'aime vraiment pas sa rousseur.
C'est tellement charmant.
Oui, c'est tellement beau, c'est tellement charmant. Et c'est une fille qui est une jeune fille qui a 11 ans, qui est très brillante, qui est très exubérante. Elle parle vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et finalement, Marilla et Matthew décident de la garder. Et à partir de ce moment-là, mille et une aventures, mésaventures même, arrivent à Anne. Elle rend sa meilleure amie Diana saoule. Elle tombe d'un faîte, d'un toit. Elle marche sur la corniche d'un toit, elle tombe, elle se brise une jambe, elle teint ses cheveux, elle tente de teindre ses cheveux noirs, ça donne vert, une espèce de vert dégueu, donc elle doit se faire couper les cheveux. Et là, on parle ici là, de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, donc avoir les cheveux courts à l'époque pour une femme, là, c'est, pour une jeune fille, là, c'est vraiment catastrophique. Et finalement, elle devient une espèce de poupée de porcelaine. Elle gagne des prix académiques. Elle devient l'institutrice de la communauté de Avonlea, le village où ça se passe. Et étant donné le succès, là, je reviens au roman, vraiment, le roman a connu un succès phénoménal étant donné ce succès-là. Lucy Maud Montgomery a écrit une suite qui s'appelle Anne d'Avonlea et une autre suite, Anne of the Island, Anne quitte son île en français. Et au total, ça a donné 8 livres qui finalement s'étalent sur peut-être une trentaine d'années. L'écriture se déroule sur une trentaine d'années, mais dans le, l'univers diégétique. Ça se passe là, de 1908, 1900 à peu près, à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Et je vais, on va tout de suite commencer la, la discussion. C'est un livre qu'on a beaucoup lu. En fait, je pense que Rachel, Clara et moi, on a lu quand on était nous-mêmes jeunes filles. Donc, je vais commencer par un tour de table. Rachel, t'avais quel âge quand tu l'as lu?
J'ai commencé à lire le livre à peu près à 10 ans. Donc, j'étais en cinquième année. Donc, à peu près, donc c'est ça, la cinquième, sixième année que j'ai commencé à lire ça. J'en ai retrouvé, je faisais des blagues là-dessus sur un certain réseau social avec un F bleu. Et... disant que j'allais sortir des extraits de mon journal intime, ce qui est pas vrai, là, mais j'avais vraiment retrouvé... J'ai fait une blague me disant que j'en ai vraiment parlé dans mon journal, à quel point que je trouvais l'œuvre superbe et que c'était vraiment fantastique. J'avais vraiment un véritable culte à l'époque pour Anne. Moi, je voulais être rousse dans la vie. Contrairement à Anne, qui, elle, se teignait les cheveux en noir, moi, je voulais être rousse. Et génétiquement, c'est comme pas possible. Et voilà, donc moi je voulais être rousse, j'écrivais des histoires, puis c'était toujours des petites filles roses qui étaient dans mes histoires.
Comme par hasard.
Comme par hasard, écoute, hein. Donc c'est vraiment ça, ça a vraiment marqué, ça a vraiment été la première série, je te dirais, qui m'a vraiment accrochée à lire, tu sais.
Oui,
les plus
c'est
jeunes,
vrai,
c'est
hein?
Harry Potter. Moi, ça a été Anne, la Maison Pignon.
Moi, juste avant Anne, il y a eu la série des Baby, le club des Babysitters.
C'est vrai. Je pense que dans mon cas, ça a été vraiment parallèle.
Oui,
mais
oui,
okay. En termes de cossins lu vraiment par des jeunes filles, le club des Babysitters aussi fait pas mal parce que cette catégorie-là.
Début années 90.
Écoute, hein.
Et Clara, pour ta part?
Ben moi, ça a été plus tard, en fait. Moi, la série qui m'a vraiment initiée à la littérature quand j'étais petite, c'était les livres de la comtesse de Ségur. C'est un petit peu plus élevé.
Oui,
quand même. Mais c'est quand même des classiques. C'est quand même des classiques de la littérature jeunesse.
Oui, c'est des classiques de la littérature jeunesse pour les jeunes filles. Mais j'ai l'impression que c'est deux courants qui sont un petit peu différents, là. Comme Anne au Pignon Vert, c'était plus dans le courant de la littérature domestique. J'ai lu un petit peu là-dessus, en fait. Mais bref, moi, j'étais plus vieille. J'avais peut-être 14-15 ans quand j'ai lu la série. Puis c'est à ce moment-là que ça m'a vraiment marquée. Parce que quand j'étais petite, il y avait la série animée, là, la série, le dessin animé japonais.
Mm-hmm.
Puis je détestais ce personnage-là que je trouvais insupportable. Je détestais sa voix, je détestais le... tout le romantisme qu'il y avait autour de ça, avec les petites fleurs. Puis j'étais très tomboy quand j'étais petite. Mais à l'adolescente, c'était vraiment le contraire. Là. J'étais vraiment rendue girl culture à fond. Là. Puis j'ai relu la série plusieurs fois pendant mon adolescence. J'ai tout vu les films, revu la série de dessins animés.
Puis, t'as revu les mangas qui te tombaient sur les nerfs.
Oui, oui, je l'ai même chez moi. J'ai le coffret DVD. C'est un coffret qui est illégal, là, parce qu'il n'est pas édité. Hein. Mais j'ai le coffret DVD.
Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Pour ma part, je vais répondre à ma propre question. Là. Ça a été ma sixième année au complet. Je pense que je revois très exactement l'endroit à la bibliothèque scolaire, le rayon où était la série. Donc, je les ai empruntés à la bibliothèque. J'ai commencé à les lire et je pense à Noël. Là, on m'a donné, mes parents et ma grand-mère m'ont donné comme tout ce qu'ils pouvaient de Anne. Et j'étais très chanceuse l'été suivant, donc l'été entre ma sixième année et ma première année de secondaire. Je suis allée à l'île du Prince-Édouard, on a fait du tourisme Anne, dont on va parler d'ailleurs plus tard dans l'émission. Mais ça a vraiment été un moment privilégié. Et quelques jours après mon retour de l'île du Prince-Édouard, j'écoutais une certaine chanson qui s'appelle Bohemian Rhapsody et ça a été la fin de Anne et le début de Queen, dont on a déjà parlé ici à Pop en Stock par ailleurs.
Il y a déjà quelques mois.
Oui, c'était en septembre, ma première émission à Pop en Stock. Donc, c'est le fun, ça suit mes passions, hein, comme par hasard. Et je trouve ça aussi, qu'est-ce que j'allais dire tout à l'heure, je trouve ça vraiment fascinant à quel point c'est fédérateur auprès des jeunes filles, toute la série Anne, à quel point on peut s'identifier à cette jeune fille intelligente, brillante, qui parle beaucoup, même si elle est rousse. Non, je ne veux pas dire que les roues ne parlent pas, mais je veux mais qu'on s'identifie même s'il y a comme une espèce de signe. Oui, oui, même s'il y a une espèce de signe d'oppression, là, les roues. Là. Oui. Les roues et les rousses. Et je crois que Anne a souvent été, la série Anne a souvent été mise de côté et un peu regardée de haut parce que, justement, c'est une série qui plaît beaucoup aux jeunes filles. Donc, quand on, habituellement, c'est pas la seule, d'ailleurs, le seul témoignage de cette espèce d'exclusion-là quand quelque chose plaît à cet auditoire que constituent les jeunes filles. Justin Bieber est un bon exemple.
C'est ce que j'allais parler. Hein? J'allais parler de la musique, mm-hmm. en fait. Il y avait eu un article qui était sorti il y a pas si longtemps qui disait Why do we hate girl bands so much?
What little girls like?
Ouais,
ouais,
j'ai lu ça.
What little girls like so much? Tu sais. Puis c'était vraiment là-dessus, c'était sur les filles qui justement aiment Justin Bieber, aiment One Direction, qui dans le temps où nous étions dans les années 90 aimaient les Backstreet Boys et
New Kids on the Block. Ouais.
Et les New Kids on the Block, mm-hmm. c'est vrai. Puis c'est par rapport à la musique, on en parlait plus. Justement, que est-ce que c'est parce que ce sont des groupes qui sont aimés par des jeunes filles qui sont aussi méprisées?
Moi, je crois que oui.
J'imagine qu'on peut faire probablement le même phénomène avec Anne, de la même façon que j'imagine que le club des Babysitters n'était pas nécessairement plus... même au Québec, le journal d'Aurélie Laflamme,
oui, il oui,
disait
oui.
Desjardins a eu un énorme succès commercial... Mais est-ce que c'est reconnu comme un canon de la littérature jeunesse autant que d'autres trucs auxquels je pourrais penser? Là,
oui, c'est ça. Est-ce que, parce que qu'est-ce qui se passe avec Anne, c'est qu'il y a une espèce de longévité qui a fait en sorte que à partir d'un certain point, là, c'est comme si la page se tournait, puis oui. tu deviens vraiment, oui, inclus dans le canon.
Exactement.
Je dis Anne, d'habitude, Anne avec un E, on comprend de qui il s'agit. Mm-hmm. Puis la comtesse de Ségur, un peu la même chose. Donc, c'est comme une espèce de littérature jeunesse qui vient du passé et qui réussit, qui, à cause du pouvoir, de la longévité puis de la popularité à long terme, peut, tu sais, devenir légitime. Mais oui, India Desjardins, est-ce qu'elle a... comme parcouru, traverser ce miroir-là, je
penserais
pas.
Pas.
Alice au Pays des Merveilles.
Pas, non.
Oui, mm-hmm. par contre, ouais, dans le cas d'Alice au Pays des Merveilles, oui.
Oui, là, vous avez complètement traversé.
Oui, vas-y.
Mais c'était quand même écrit par un homme, Alice au Pays des Merveilles, alors
ouais,
que...
Lewis Carroll, oui.
C'est ça, alors que toutes les séries, les livres pour les jeunes filles comme Heidi, les quatre filles du Dr. March, mm-hmm. On parlait de ouais, Fifi Brin d'Acier tantôt, c'est quand même des auteurs féminins.
Oui, c'est vrai.
Le club des babysitters aussi, je crois
oui.
que c'est...
Oui, c'est une dame, oui. Lucie, quelque chose.
Effectivement, c'est A.M. Martin. Moi, j'ai tout le temps appelé Anne-Marie, mais c'est peut-être pas Anne-Marie, mais c'est A.M. Martin, si je me souviens.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Martin.
C'est vrai.
Mais oui, c'est vrai que la question du sexe biologique de l'auteur... oui, influence beaucoup comment on peut recevoir un livre socialement aussi. Et parlant de ça, il y a les Japonais, cette fameuse... quand on parle de Anne, souvent, les gens répondent « Eh oui, savais-tu qu'au Japon, c'est vraiment big? » et oui, en effet. Ça vient, en fait, d'une traductrice qui s'appelle Anako Muraoka. Oui, Muraoka, c'est ça. Je suis pas très fluente en japonais. Et qui a découvert le livre en 1939. C'est déjà cette date-là devrait vous sonner quelques cloches. Et finalement, au péril de sa vie, lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle a traduit Anne à la Maison Pignon Vert, le premier. Au péril de sa vie parce que l'anglais était la langue de l'ennemi. Et il fallait vraiment pas niaiser avec ça. Et au sortir de la guerre, le Japon est en ruine. Il y a beaucoup d'orphelins. Il y a beaucoup de ces personnes un peu perdues qui savent pas vraiment quoi faire. Et Anne, le roman Anne à Maison Pignon Vert a un succès immédiat. Donc, il est souvent, pour expliquer le succès de Anne, le premier succès de Anne, on parle souvent de c'est une espèce de reflet de la société. Donc, il y avait beaucoup de jeunes orphelins. Anne étant une orpheline qui arrive à s'en sortir, qui arrive à devenir une institutrice, qui est très intelligente, à voir à l'université, tout ça. Donc, ça donne une espèce de renouveau, une espèce d'espoir à cette société qui était vraiment totalement en ruine.
Oui.
Et il y a, en fait, pour parler aussi de l'importance, pas pour l'importance, mais donner une idée à quel point Anne est importante au Japon, des années 90, il y a un parc d'attractions qui s'appelait
Canada Land.
Et dans ce Canada Land-là, qui se situe au Japon, là, je le répète, il y avait une réplique de la maison au pignon vert. Donc, c'est à ce point-là que les Japonais... mais je pense qu'il y a plein d'autres petites anecdotes. Il y a plusieurs enfants des années 60-70 qui s'appellent Anne.
Oui.
Pour...
Anne, non. Ça, c'est quand même drôle. Non, mais j'allais rajouter quelque chose sur ce que tu disais sur la popularité de Anne au Japon. Il y avait aussi... il y avait aussi un texte qui disait, je pense que c'était dans le texte de Margaret Atwood qu'elle avait écrit pour le 100e anniversaire d'Anne dans le Guardian. Puis elle disait,
en 2008.
Mm-hmm. En 2008. Et elle disait justement que probablement ce qui a fait aussi vibrer les Japonais, c'était justement, comment dire, le fait que ça correspondait quand même aux valeurs du Japon, la famille,
oui, c'est vrai, oui.
L'éducation, que c'est important, le respect des parents, le respect des bonnes valeurs, d'avoir une bonne conduite.
Oui, et il y avait aussi le fait que avoir les cheveux roux, c'est immensément exotique.
Absolument, effectivement, il y a un mélange à la fois d'exotisme puis d'ancrage dans la culture japonaise et dans les valeurs japonaises qui a probablement expliqué aussi le fait que Anne soit devenue aussi populaire.
Un symbole, vraiment. Ouais.
C'est aussi que le personnage de Anne, c'était un personnage féminin dont il n'y avait pas vraiment d'équivalent au Japon. T'sais, le type de personnage de Anne dans la littérature victorienne puis du tournant du siècle, il y en avait pas mal d'autres héroïnes comme ça qui étaient à la fois... perçue comme vertueuse, mais en même temps qui correspondait pas tout à fait aux normes sociales dictées par le genre. Mais là, c'était un personnage qui offrait une nouvelle façon de s'exprimer aux jeunes femmes du Japon. Mm-hmm. C'est ça que j'avais lu dans un texte avant-hier, puis je trouvais ça intéressant comme façon de voir les choses, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiguïté un petit peu dans Anne au pignon vert, à savoir que le personnage... elle est définie par son excentricité, mais en même temps, à mesure que la série progresse, ça s'agit, Anne.
Totalement.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Totalement.
C'est ça.
Oui, elle, toutes ces nice little thoughts, elle les pense dans sa tête au lieu de toutes les exprimer tout le temps.
Oui. Exactement. Mm-hmm. Puis on peut dire que le personnage se perd un petit peu. Je sais pas, moi, c'est mon avis personnel. Mais oui. J'ai l'impression qu'elle cède un petit peu aux pressions de l'époque, les pressions religieuses, culturelles et sociales par rapport aux femmes.
On va en parler plus tout à l'heure, d'ailleurs, oui. Dans le prochain bloc. Là, je vais justement, on va faire un petit peu, je dirais pas une séance de torture, mais on va jouer le thème du manga, Anne,
yeah!
qui a bercé notre enfance, et probablement votre enfance aussi, les auditeurs de la maison. Et vraiment, ça là, je vais juste le dire, le mot Anne, et je crois que j'ai cette chanson-là dans la tête immédiatement. Il me semble qu'en entendant ce thème-là, moi, je vois les petits anges tout nus, les petits cupidons, là.
Les fleurs,
tout ça.
Donc, juste avant la musique, On parlait à quel point Anne a changé au cours de la série, particulièrement même au courant même du premier livre, tout simplement. Mm-hmm. Je l'ai dit un peu aussi dans l'introduction, Anne vraiment est une championne gaffeuse lors des premiers chapitres du premier livre. Je n'ai parlé un petit peu, c'est ça. Elle saoule son amie, Diana. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce qu'il y a...
Ben, les cheveux.
Les cheveux, là. Les cheveux, je pense que tout le monde s'en souvient.
Oui, les castins, les cheveux en noir.
Elle tombe d'un pont
c'est
aussi.
C'est ça. Elle tombe d'un pont. Elle se rattrape, comment dire, un pilier du pont.
Oui, c'est ça.
En tentant d'imiter comme Ophélie, là, je ne sais pas
oui,
trop.
Oui, c'est
là.
Ça, exactement.
Et... la personne qui la sauve, c'est Gilbert. On n'a pas encore mentionné Gilbert. C'est un personnage très important de la série
oui,
au complet.
Central.
Central. C'est le prétendant. Mon Dieu. Au début, c'est l'ennemi juré d'Anne parce qu'il a taquiné à propos de ses cheveux roux. Il l'a appelé Carotte.
Oui, et il lui tirait les nattes.
Oui, c'est ça.
Lui a mis de la mélasse, puis elle était pas heureuse.
Ça, je me souviens pas.
Ouais.
Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps.
Non.
Ça a duré, sur leur vie, non, mais quand même, ça prend une bonne partie du premier livre. Je pense qu'ils se réconcilient seulement à la dernière page.
Ouais, mais lui, on voit clairement qu'il y a un kick dessus.
Ah oui, oui,
là.
C'est clair.
Oh.
Et justement, la personne qui sauve Anne des eaux alors qu'elle est rattachée au pont, qu'elle vraiment s'accroche au pilier du pont, c'est Gilbert. Qui arrive dans un canot, là.
Oui.
Et j'avoue, là, quand j'ai lu ça, là, c'est ça, j'avais comme 11-12 ans, là. C'est rare qu'on décroche autant en lecture, mais j'ai vraiment fait comme... c'est un gasp sonore en lisant. Je m'attendais tellement pas à ça. C'est comme un punch. Et il y a une transformation, c'est ça, de Anne au courant des livres qui devient vraiment beaucoup plus posée, beaucoup plus gracieuse.
Oui.
Et c'est vraiment un exemple de bonne conduite.
Totalement. Mm-hmm. Ben dans le fond, écoute, tu sais, à la fin, quand elle se marie avec Gilbert devient médecin, puis elle se fait appeler Madame Docteur quand même.
Madame Docteur Gilbert Blythe.
Exactement.
Ouais, c'est comme...
c'est aussi très représentatif de qu'est-ce qui est aussi très représentatif de l'époque où est-ce que on te nommait par le nom de ton mari, là,
oui,
mais c'est
oui.
ça. Mais c'était du Madame Docteur à profusion. Dès le troisième livre, on voit, même dans Anne quitte son île, je pense mm-hmm. que c'est le troisième ou quatrième.
Oui, c'est lui.
C'est le troisième?
C'est le troisième.
On voit la switch qui passe, puis le fait qu'elle devienne vraiment...
Une figure d'autorité.
Madame, une figure d'autorité, exactement. Exactement.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça. Puis dans le fond... Après, dans le fond, les cinquième, sixième, septième livres, la valeur arc-en-ciel, on la voit à peu près pas. T'sais.
Oui, puis elle est nommée. Il me semble qu'elle est nommée Madame Blight.
Oui.
Moi, ça m'avait vraiment déçue la première fois que je suis tombée là-dessus.
Oui. Oui. Puis dans Rilla d'Ingolstein, dans le fond, dans le dernier.
Dans le dernier qui met en scène sa fille.
Dans le dernier
Rilla.
Qui met en scène sa fille, Rilla, donc nommée de Marilla. Hein,
oui.
Et voilà. Et donc, c'est ce qui est intéressant, en tout cas, parmi tous les livres de la série, c'est celui que j'ai relu le plus récemment.
OK.
Récemment étant dans les, genre, 3 ou 4 dernières années. Là. Et puis ce qui est intéressant, dans le fond, j'ai essayé de me rappeler de ça, puis c'est que Anne, contrairement, surtout... par rapport à la vallée arc-en-ciel où elle est complètement effacée,
mm-hmm.
où est-ce qu'effectivement elle s'est appelée Madame Blight et tout ça, dans Rilla d'Ingolstein, parce que Gilbert est très occupé parce qu'il s'occupe de la Croix-Rouge en étant médecin, les garçons sont tous partis à la guerre ou à peu près, on dirait que Anne reprend un peu de place avec cette interaction-là avec Rilla. Rilla, qui est d'ailleurs considérée comme une fille superficielle
mm-hmm,
et tout,
mm-hmm.
puis que Anne essaye de dompter, tu sais, qu'elle essaye de
c'est
lui
dire...
C'est
ça qui est intéressant.
Oui, vas-y, vas-y.
Ben, c'est ça aussi que je trouvais comme... Il y a vraiment... Tu sais, on va parler tantôt d'une idée selon laquelle le roman serait un roman féministe, là, mais il y a beaucoup de morale religieuse dans Anne... C'est un peu ça qui m'avait dérangée. J'ai réussi à passer par-dessus quand j'étais adolescente, mais, tu sais, par exemple, Anne, elle veut tellement la robe les robes avec les manches bouffantes.
Les robes, oui, la robe avec la manche,
elle voudrait,
les manches
bouffantes. Elle voudrait avoir des beaux cheveux. Elle voudrait être belle, elle voudrait être jolie, mais elle est toujours punie pour ça. Elle n'a pas le droit de mettre de belles robes. Elle se fait couper les cheveux jusqu'à ce qu'elle ne s'intéresse plus à ces choses-là. Puis tout d'un coup, elle a des super belles robes, puis elle est habillée comme une carte de mode là, de l'époque. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant comme de concevoir ça. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un petit peu une recherche sur la littérature pour jeunes filles à l'époque victorienne, puis la littérature pour les femmes en général.
Oui.
Puis ça avait comme une vocation un petit peu d'éducation, mais d'éducation pour mettre les filles à leur place, dans le fond.
Okay, oui, oui.
C'était des auteurs féminins, mais ces écrivaines-là pouvaient pas vraiment aller contre les valeurs de la société, même si elles s'écartaient en proposant des personnages qui différaient un petit peu de la norme.
Oui.
Mais comme on voit, par exemple, dans Anne, le personnage revient un petit peu à un modèle pour les jeunes femmes. Tu sais, elle continue à écrire et tout, mais c'est peut-être moins son imagination que son autorité en tant que professeure qui est valorisée par la suite.
Et en tant que mère, surtout.
C'est ça.
Surtout vers la fin.
Oui.
C'est beaucoup en tant que mère. Tu sais, dans Rila, c'est frappant, là. C'est vraiment... C'est la mère qui dit à sa fille, ben tu devrais faire des études, tu devrais arrêter d'être superficielle, tu devrais être dans un certain droit chemin, tu sais.
Parce que dans les trois premiers livres de la série Anne est une personnage très forte, très ambitieuse, qui se fait encourager dans ses ambitions-là. Quand même s'il y a un certain moule, il y a aussi quand même une certaine sortie de moule. Avec toutes ces ambitions-là, dans une époque où t'es juste une femme qui sait lire, là, c'est déjà exceptionnel.
Ouais,
là. Et à ce titre-là, quand même, Anne a fasciné plusieurs chercheurs qui la considèrent féministe. Il y a même une maîtrise, dont j'ai lu juste la conclusion, je vous l'avoue, un mémoire de maîtrise qui parle en fait des liens entre Anne et la troisième vague de féminisme, qui est la vague en fait de Riot Girl, là, donc celle des années 90, le punk revendicatrice, beaucoup, cette chercheure-là voit vraiment des liens entre cette troisième vague du féminisme et Anne. Et justement, les manches bouffantes, la robe à manches bouffantes fait partie de ça. Donc, c'est possible de revendiquer des meilleurs droits pour les femmes tout en étant girly, tout en étant féminine, tout en ayant des manches bouffantes, finalement.
Oui.
Et
c'est la conclusion à laquelle elle arrivait, cette chercheure-là. Il y a Gilbert aussi qui peut être considéré comme un personnage féministe. Bien sûr, là, on se rapporte un peu à l'époque de 1908 et tout, là.
Oui.
C'est un personnage qui encourage Anne dans ses études, qui ne se sent pas menacée.
Non.
Il y a un fameux concours d'épellation et le mot chrysanthème. Moi, à chaque fois que j'entends le mot chrysanthème, je pense à Anne. Et c'est Anne qui a... Il y a comme une espèce de compétition là, entre Gilbert et Anne. Et Gilbert est incapable de
déplier
chrysanthème. Et c'est Anne qui le bat. Et au lieu d'être fâché, il est admiratif devant cette jeune rousse au cerveau éclatant comme ça.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une compétition entre les deux, mais c'est pas une compétition où est-ce qu'il se sent rabaissé par elle, qui est brillante parce qu'elle est une fille. Au contraire, c'est comme si, justement, de trouver... Il la considère un peu comme son égale, en fait, tu sais, en termes d'intelligence, par rapport à son intelligence, il la considère comme une égale. Il y a pas le rapport d'infériorité... qu'on aurait pu s'attendre à voir dans une œuvre de cette époque-là. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça,
même aujourd'hui, je veux dire...
Absolument.
Oui, même aujourd'hui.
Oui.
Christian Grey...
Mon Dieu, non.
Le gars de Twilight... les vampires...
Oui, Edward,
merci.
Oh,
Edward.
Mon Dieu, je ne savais même pas.
Ah, ça sert à ça, être prof avec des enfants.
Oh!
Mais qui regarde Bella dormir, là, puis qui est complètement... qui veut vraiment contrôler, puis Christian Grey, on n'en parle même pas, là.
Oh,
Gilbert devient une espèce de de petit ami idéal. D'ailleurs, Jonathan Crombie, qui interprétait Gilbert Blythe, ou Gilbert Blythe, là, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, dans la série produite par la CBC, est décédé le 15 avril dernier. Et il avait seulement 48 ans, donc une hémorragie cérébrale. Mmh. Et ça, Internet a un peu brisé, là, pas complètement, mais il y avait beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, de femmes aussi, qui ont écouté la série, qui étaient en amour avec, avec Gilbert Blythe, qui ont été vraiment dévastées. Moi, mon cœur était en mille miettes, là.
Il y a des fangirls, là.
Absolument.
Ça m'a surprise un peu.
Oh, oui. Ben, moi-même, quand j'avais lu la nouvelle, puis j'avais vu ça passer, il y a eu un moment de... Oh!
Moi, je savais pas avant.
Ça m'avait quand même pincé.
Oui.
Oui, puis quand on commence à gratter un peu sous la surface, il y a vraiment tout un réseau Anne et Gilbert qui est en train de se passer là, sur Internet.
Ah oui, il y a énormément d'illustrations, de fanfiction. J'ai trouvé ça.
Absolument, il y a vraiment plein. Quand j'ai commencé à faire mes recherches et à plancher pour en parler ici, je vais commencer par les fanfictions. Parce que bon, c'est amusant. Et puis il y en avait une que j'avais trouvée sur un site, puis c'était une bébelle qui se passait dans l'espace, puis j'étais genre l'arrière, petite fille d'âme. Puis là, c'était vraiment étrange. Ça se passait en 2000, machin.
Est-elle rousse, c'est ça?
Je l'avoue que je ne m'en souviens plus.
C'est pas grave.
Moi, je serais curieuse de savoir s'il y a des fanfictions érotiques.
C'est sûr
qu'il y en a.
Si tu as pensé...
Il y en a sûrement plus qu'une.
Et, oui. Il y a peut-être aussi des fanfictions érotiques entre Anne et Diana Barry, la meilleure amie d'Anne quand elle est jeune. Et il y a même, dans nos recherches, on est tombé là-dessus, des hypothèses, comment dire, oui, c'est ça. Certaines hypothèses qui indiquent que Anne serait peut-être une lesbienne. Oui. Ou homoromantique à tout le moins, donc préfère vraiment la compagnie de ces dames. Et là, il y avait comme une espèce de liste de points toute l'affection qui est démontrée envers Diana, c'est jamais démontré envers Gilbert, même au courant de toute la série.
Oui.
Quand elle arrive à l'école Windy Poplars, donc Anne durant sa vie, durant son existence, c'est le quatrième... tome de la série, elle devient soit prof ou même directrice d'une école privée à Summerside, qui est, donc n'est pas à Avonlea. Et à ce moment-là, elle est fiancée à Gilbert, mais sa première pensée va à qui? Bon, c'est qui ma meilleure amie maintenant ici? elle se lie d'amitié avec une Catherine, avec un K, d'ailleurs, qui, elle tente vraiment de l'amadouer, qui est comme une espèce de prof, là, au cœur d'acier, là. Et elle tente, et le but de Anne durant ce livre-là, c'est de l'amadouer, d'en faire une tendre âme et de pouvoir la prendre par le, marcher côte à côte avec elle, avec le bras sous la taille. On fait plus ça aujourd'hui, là. Mais c'est quand même une image érotique, quand même, assez fantastique.
Tout à fait. Mm-hmm. Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu réducteur de dire que ce sont des amitiés qui ont seulement à saveur érotique, que c'est vraiment... Parce que une des choses que je trouve vraiment intéressante dans la série Anne, c'est l'importance des amitiés féminines.
Oui,
puis l'intensité des amitiés féminines. Puis justement, on parlait de, bon, le lien avec les Riot Girls, puis tout ça. Puis le réseau des Riot Girls, quand elles faisaient leur fanzine et tout, ça fait peut-être penser, on peut faire un lien avec le club de lecture que Anne avait fondé, par exemple, puis... T'sais, tous ces réseaux d'amies féminines quand elle va étudier ailleurs, je trouve que c'est quand même important dans le livre, mais c'est sûr que c'est une hypothèse qui est fascinante, là, surtout parce que c'est vrai qu'elle rejette toujours les avances des hommes. Donc,
Oui, Gilbert, il travaille longtemps.
Il travaille longtemps. Puis... Tu sais, il y a eu un moment où c'est ça, quand Anne s'en va. Ah oui, suite à l'histoire où est-ce que elle saoule Diana avec le jus de... avec
juste framboise.
Juste framboise.
Framboise, ouais, du cordial, en fait.
Du cordial aux framboises.
Du jus fermenté, donc ça te fait...
Ça fait, oui. Exactement. Puis là, ben, Madame Barry, la mère de Diana, lui dit, non, tu ne peux plus voir Anne. Là, elle déclare la chose, elle s'effondre en larmes, puis elle se déclare leur amour, puis c'est vraiment du « I love you », là. C'est pas « I like you ».
C'est
là, elle s'aime, puis là, elle s'aime beaucoup, puis là, Anne, à un moment donné, se coupe une mèche de cheveux, puis
elle
donne à Diana en lui disant que tu vas toujours te rappeler de moi, puis c'est très intense.
C'est très intense. Moi, j'ai... reparler de ça, moi, j'ai lu les trois premiers de la série en anglais quand j'ai commencé le doctorat, donc en 2007, à peu près.
Oui.
Et lire cette jeune enfant qui... mon Dieu, elle a tout le temps la main sur le cœur, qui est comme « Ah! Oh, » tout le temps, le « depth of despair ».
Oui, oui.
Ça m'a tellement... j'ai tellement compris des choses sur moi-même.
Je pense que c'est ça qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que le personnage nous fait beaucoup penser à nous-mêmes.
Oui, oui.
C'est ça
oui.
qui est...
Absolument.
Ouais.
Mais avec cette intensité de l'adolescence-là, même si ça fait 100 ans, finalement, de différence... Mais c'est quelque chose qui change pas.
Ça change pas. Ouais. Quand t'aimes vraiment beaucoup à l'adolescence, puis quand tu es triste, tu l'es vraiment beaucoup.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Quand t'es fâché, ben t'es vraiment fâché. Puis c'est entier, puis c'est probablement pour ça aussi que plusieurs jeunes filles se sont reconnues là-dedans, parce que c'est tellement...
Aucune demi-mesure.
Absolument.
Oui, puis c'est aussi intéressant parce que Anne, elle exprimait vraiment ses émotions haut et fort, alors que j'ai l'impression que les autres personnages étaient un petit peu plus fades, tu sais.
Oui.
Il agissait plus d'une façon prescrite par la société.
Oui, oui.
C'est ça, peut-être
Elle n'est pas la reine de l'euphémisme, là. C'est une très bonne chose.
Oui.
Ben c'est ce qui lui donne sa couleur. sans jeu de mots. C'est ce qui lui donne sa couleur, puis c'est ce qui lui donne aussi son intérêt.
Mm-hmm.
Ce qui est exploité aussi dans d'autres livres de Lucy Maud Montgomery.
Oui, en effet. À l'époque, je l'ai toutes mes achetées, mais finalement, j'ai jamais eu cette ambition. J'ai jamais réalisé ça, mais oui, elle a d'autres séries.
Ben, il y a eu un bout qu'elle avait fait avec Sarah Stanley, la conteuse, qui a été adaptée à la télé, à la CBC, comme Road to Avonlea.
Oui.
Donc, puis tu vois, ces deux-là, je les ai à la maison. Tandis que Anne, je les ai toutes empruntées à la bibliothèque, mais tu vois, les deux livres de la conteuse, je les ai chez moi, puis ben, ça m'a permis de les refeuilleter puis de les relire, puis, tu sais, on parlait de la bonne conduite tout à l'heure, c'est fascinant, parce que dans le truc, dans le fond, Sarah Stanley, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, l'histoire brève de Road to Avonlea,
En fait, je pense que le livre, c'est Chronicles of Avonlea.
Exact.
Ça a été adapté à Radio-Canada sous
Road of Avonlea. C'est ça. Bon. Puis il y a The Story Girl, puis il y a aussi l'autre, là, dont j'oublie le nom maintenant parce qu'il faut que je le dise. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Ça commence par deux garçons de Toronto arrivent dans la famille King, qui est leur famille, chez leur oncle, Alec, parce que le père doit partir loin. Puis là, ils vivent là pendant un bon bout de temps, parce qu'il a été appelé à Rio de Janeiro 2 ans, quelque chose de même. Et donc, ils vivent à ce moment-là. Et donc, ils rencontrent Sarah Stanley, qui est une conteuse, qui est une fille qui raconte beaucoup d'histoires, qui a un art pour raconter des histoires. Puis Sarah Stanley, justement, est considérée comme étant une excentrique.
Mais c'est une jeune fille, là.
C'est une petite fille.
C'est une petite fille, à genre 12 ans.
Qui est une conteuse, mais pas dans le sens professionnel.
Non, c'est une conteuse dans le sens où est-ce qu'elle raconte beaucoup d'histoires.
Parfait.
Elle connaît des histoires, elle les mémorise, puis elle les raconte de manière tellement extraordinaire que c'est le surnom que les enfants de la famille King lui donnent.
Okay.
Puis, c'est ça. Donc, Sarah Stanley, elle a un côté excentrique, elle a un côté qui sort de la norme. Et dans la même famille King, la famille, bon, cousin, cousine, etc., il y a Felicity. Et Felicity, ben, elle a 12 ans et elle est totalement dans le modèle qu'on s'attend d'une jeune femme. Elle est posée, elle va à l'église, elle considère que c'est très important d'être presbytérienne. Elle ne veut pas qu'un autre de leurs camarades vienne parce que c'est un garçon de ferme, puis que hey, nous, on ne se tient pas avec des garçons de ferme dans la vie. Elle s'est cuisinée et tout ça, puis...
Et c'est la princesse de l'euphémisme, j'imagine.
Oh que oui! Elle est bien précieuse. mais non, puis c'est ça, puis Sarah Stanley, elle est complètement à l'inverse de ça, puis... Mm-hmm. Tu sais, de voir ça, tu sais, alors que il y a toujours Félicité qui rappelle, mais là, il faut pas faire ça, mais là, il faut pas dire ça. Puis Sarah Stanley qui fait, non, mais c'est pas grave.
Mais c'est un moteur narratif incroyable, en
même temps. Absolument.
Oui, c'est ça.
Absolument. Tout à fait, mais tu sais, le personnage excentrique qui finit, puis dans le cas de la conteuse, un peu comme dans le cas de Anne, qu'est-ce qui est saisissant, c'est que dans le fond, malgré le fait qu'elle sorte du rang, elle finisse par se faire apprécier. Parce que, justement, elle sort du rang.
Oui, oui, c'est vrai. T'sais, Anne a conquis...
Elle conquiert le cœur de tout le monde. Merci.
Oui, puis pourtant, c'est une petite orpheline. On s'entend que c'est pas un roman très réaliste.
Non.
C'est une petite orpheline là, qui est chippée dans une famille...
dans une province très peu peuplée.
Oui, c'est ça. Mais j'aurais pas une famille riche, mais qui subvient à leurs besoins, là, les Cuthbert.
Oui. Mm.
Et elle devient... le gang des prix, je l'ai appelé comme la troisième fois, je le dis, mais des prix académiques, elle devient l'instructrice de son village, elle conquiert même Madame Lind, là, qui est la pille là, du village, là, celle qui potine.
Et Rachel, ça, de son
Rachel
prénom.
Rachel Lind. Oui, c'est vrai.
Oui. Ouais.
La pas fine.
Elle est pas fine.
Ben non, elle est pas fine, c'est pas les pailles. Là. C'est juste que c'est... Une jacasseuse, là.
C'est ça, c'est une pie. Tu sais, en bon québécois, on dirait que c'est une mémère.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Et on va aller pour un break musical assez rapide. Il y a une comédie musicale, bien entendu, qui a été faite à propos de Anne, qui s'appelle Anne of Green Gables, The Musical, comme littéralement.
Je pense qu'il y a plus qu'une...
Oui, il y en a deux.
Il y en a une deuxième qui a été créée, qui s'appelle Anne and Gilbert.
Piano Japon.
Piano aussi.
Mais je pense que c'est la même au
Japon. Made in Japan. Non.
Moi, j'ai reconnu les airs. Dans mon voyage en île du Prince-Édouard en 93, je suis allée la voir avec ma mère et j'avais acheté la cassette. Donc, j'ai vraiment beaucoup écouté la cassette. Et c'est disponible sur YouTube là, comme tous les, à peu près.
À peu près.
Et donc, on va écouter la chanson, le thème de Gilbert. C'est une chanson qui s'appelle Wondering. Donc, wondering, il se demande.
Wondering, all at once I'm wondering, what it's like to grow up and have someone show. Such a silly fool, she'll never look your way. Wondering, now they'll all be wondering, and they'll gab like parrots, 'cause I called her cow.
About me this way.
Oui, ça sonne vraiment très comédie musicale. Hein,
ah, c'est très, c'est très musical. T'sais, on était justement en train de jaser hors d'onde de comédie musicale qui sortent un peu de ce canon-là. Là, on n'est pas du tout là-dedans.
Non. Elle a été créée en 1965, là, c'est peut-être... Ça explique, je pense.
Ceci explique aussi probablement cela.
C'est pas The Rocky Horror Picture Show.
Non.
C'est ça.
Non.
Et je pense qu'elle joue encore. En tout cas, c'est encore possible d'aller la voir. Elle est encore à l'affiche, là, à Charlottetown. Peut-être pas toutes les dates de l'année, là, mais elle joue encore. Donc, c'est vraiment un classique.
Oh, d'accord!
Ça, elle joue aussi au Japon. Elle a déjà joué au Japon, à tout le moins.
Oui.
Donc, si la curiosité vous le dit, Anne of Green Gables, the musical, sur YouTube, là, vous allez découvrir des chansons vraiment d'un autre temps, quelque part. Anne ne provient pas, n'a pas été créée dans un vacuum. Elle a été très influencée par un autre livre jeunesse qui, lui, est tombé complètement dans l'oubli. Il s'appelait Rebecca of Stony Brook Farm, si je ne me trompe pas.
Sunnybrook Farm.
Sunnybrook. Bon, j'étais pas très loin. C'est un roman américain qui parle justement d'une, non pas d'une orpheline, mais juste d'une fille qui doit être laissée à une ferme, là, parce que, comme son père va ailleurs, là, comme, on dirait que ça arrivait souvent, ce genre d'aventure-là, des années, à la fin des années 1800.
Mais absolument, c'est d'ailleurs une des affaires qu'il disait dans ce texte-là qui parlait de Rebecca of Sunnybrook. C'était justement le fait qu'il y avait vraiment tout un courant littéraire de justement de ces filles abandonnées, de ces orphelins, de ces filines.
Mais les orphelins aussi, il y avait Tom Sawyer.
Absolument.
Oui, Mark Twain.
De Mark Twain.
Mark Twain qui a dit d'ailleurs, qui a lu Anne et qui a dit que c'est l'héroïne jeunesse la plus... délectable depuis Alice, quelque chose comme ça.
Oui, tout à fait.
Et en fait, c'est un peu même scandaleux de voir tous les liens entre Rebecca of Sunnybrook Farms et Anne of Green Gables, parce qu'on dirait que Lucy Maud Montgomery a plagié à certains moments, même c'est les mêmes mots qui reviennent.
Oui.
C'est un peu les mêmes aventures, les mêmes mots.
Tu sais, elles ont le même âge, c'est ça, Rebecca, elle a 11 ans lorsqu'elle a été laissée, Anne, la même chose. Leur apparence est très... Écoute, Rebecca est brune, elle n'est pas rousse, mais elles ont toutes les deux des grands yeux bleus, elles ont des traits de visage très semblables, très ronds. Elles font des gaffes qui sont vraiment semblables.
Oui.
Tu sais, vraiment, le parallélisme est fou, là.
Oui.
Les deux se retrouvent dans une ferme, chez des gens qui sont, eux aussi...
Sœurs dans le cas de Rebecca, donc deux sœurs, et frères et sœurs dans le cas de Anne.
Oui, qui ne sont jamais mariés.
C'est ça, puis qui sont un peu cœur de pierre, là.
Exactement.
Qu'il faut comme conquérir, là.
Absolument. Mm-hmm.
J'ai
Absolument.
L'impression que c'était des types de personnages puis des motifs qui revenaient souvent dans la littérature à cette époque-là. Donc, je sais pas si on pourrait parler de plagiat, tu sais. J'ai pas retenu les titres, malheureusement, mais j'avais vu qu'il y avait aussi un équivalent britannique puis un équivalent australien, à Anne.
Quand je dis bon plagiat, là, c'est un peu...
Non, mais on fait juste...
C'est du modelage, on va dire ça comme ça.
C'était comme des figures...
Des genres
d'archétypes qui revenaient souvent, comme j'ai lu un texte sur qui parlait de la figure de la jeune fille tomboy. C'était quelque chose qui revenait assez souvent dans la littérature pour les jeunes filles de l'époque aussi. C'est ça.
Puis en fait aussi, pour revenir au texte que Rachel et moi avons lu, Rebecca of Sunnybrook, c'était un peu, peut-être le scandale réside moins peut-être dans le modelage que dans le fait que une icône canadienne telle que Anne a été modelée sur une Américaine.
Oui.
Et on pense qu'elle est tellement fixée comme étant le modèle canadien à un tel point que les Japonais en ont fait une Canadian Farm, là, mais ça resterait une American Farm.
Oui, c'est ça.
Alors que c'est ça, Rebecca of Sunnybrook est complètement tombée dans l'oubli, tu sais.
Oui, ça c'est quand même étrange, ça, au niveau des processus de mémoire qui se passent à l'œuvre. Mm-hmm. Pourquoi c'est Anne qui est restée et non pas Rebecca? Mais
plus... parce qu'elle est rousse.
Ouh.
C'est ça.
De plus tard dans le texte, il dit à quel point aussi... Anne... Ben, en fait, la grosse différence entre les deux, c'est que Rebecca est extrêmement patriotique.
Oui.
Et que Anne l'est beaucoup moins. Et c'est un trait un peu canadien, d'ailleurs, de ne pas être si patriotique que ça.
On se tape pas sur la main.
En effet,
oui.
Sur
le
cœur.
La main sur le cœur.
La main sur le cœur, merci. Je fais le geste. Je fais le geste en disant pas les mots de, dans le bon ordre. En disant au Canada et en regardant l'unifolié battre au vent.
C'est, mm-hmm. c'est
ce n'est pas canadien. Puis c'est très
so
bien
much.
Représenté. Mm-hmm. Not so much. Oui. Puis c'est très bien représenté aussi dans Anna. Oui.
Et c'est peut-être rare. Pour ça aussi que ça fait partie finalement de la recette du succès. C'est parce que c'est difficile de s'investir, d'investir un pays. Même si c'est devenu une icône canadienne, c'est difficile d'investir un pays dans le livre même. Et donc, mm-hmm. quand on voit des champs, des contrées vertes, on peut se dire qu'on est à l'île du Prince-Édouard.
Tout à fait.
Oui. Et je veux aussi, le succès d'Anne, même 100 ans plus tard, on en parle, 100 ans et plus, on en parle toujours. Il y a beaucoup de produits dérivés de Anne et le tourisme de l'île du Prince-Édouard, laissez-moi vous dire, est 100% basé sur Anne. Il y a les plaques d'immatriculation pendant un certain moment. C'était Home of Anne of Green Gables. C'était quand les plaques d'immatriculation disent que c'est Anne vient de là. C'est parce que c'est vraiment très important.
Oui.
Le succès, d'ailleurs, on va se terminer là-dessus, le succès de Anne et de, finalement, Lucie Maud Montgomery, son auteur, est à contrebalancer avec la maladie mentale de Lucie Maud Montgomery. Il y a, justement, lors du 100e anniversaire de la publication du livre à la Maison Pignon Vert, la famille de Lucie Maud Montgomery et fait sortir un... Je dirais pas un communiqué, mais je pense...
Non, c'était une lettre qui avait été publiée... Ouais, c'est une lettre qui avait été publiée au Globe and Mail par sa petite-fille
mm-hmm.
et qui okay. révélait à ce moment-là, dans cette lettre-là, la raison, puisque dans le fond, la raison, ben, officielle, la raison qui fait que Lucie Maud Montgomery est morte à l'âge de 67 ans, 42, en 1942, est morte d'un arrêt cardiaque, d'une manière médicale.
Ça, c'est la
version officielle. Mais dans le fond, son arrêt cardiaque, le fait que son cœur ait arrêté de battre, c'était par une overdose de médicaments. Donc, mm-hmm. vous l'aurez compris, suicidé. Par le suicide.
Ouais. Oui.
Et ça teinte, parce que Anne est tellement un personnage joyeux et exubérant et qui trouve tout merveilleux et de se rendre compte que cette femme-là, ben...
Elle a été misérable une grande partie de sa vie.
Elle a été misérable une très grande partie de sa vie. Était mélancolique. Mm-hmm. On disait qu'elle souffrait de mélancolie, ce qu'on appellerait de la dépression aujourd'hui,
oui.
Une dépression chronique.
Mm-hmm.
Puis son mari, qui était pasteur, a souffert lui aussi
oui.
de problèmes de santé mentale et ça l'a elle-même affecté, mm-hmm. Simon mm-hmm. Montgomery.
Et je crois aussi que justement dans son rôle d'épouse
oui.
de pasteur, elle était c'est très contraignant comme boulot.
Oui.
C'était et ça l'est encore, parce que ça existe encore.
Oui, et, oui, crois-moi.
Et ces contraintes-là, et ça, ça rejoint un peu, je pense, l'histoire de Anne, ces contraintes-là, elle éclate, là, puis elle n'est pas capable de vivre avec ça. Tout comme Anne avait de la difficulté à être confinée, à
oui.
ne pas parler, en tout cas au début, là, lors de sa jeunesse, là.
Oui. Mais c'est juste... Mmh. Tout à fait, mais mmh. tu sais, le parallèle entre les deux est relativement intéressant dans le sens où elles sont... Tu sais, et son personnage de Anne et elle-même, Lucie Maud Montgomery, ce sont des femmes relativement anticonformistes
mmh,
qui ont des
mmh.
idées... c'est ça, qui sont relativement anticonformistes, mais qui se rangent automatiquement après leur mariage, après avoir eu des enfants. Et qui doivent se ranger pour des raisons différentes. Dans le cas de Anne, parce qu'elle est femme de médecin. Dans le cas de Lucie Maud Montgomery, parce qu'elle est femme de pasteur.
Mm-hmm, mm-hmm.
Puis ce qui est étrange, c'est que, dans le fond, tu sais, son personnage revient un petit peu devant la scène lors du dernier livre avec Rilla d'Ingleside, où est-ce qu'elle a vraiment... Tu sais, on voit la relation qu'elle a plus entre elle et sa fille, puis qu'elle revient, mais c'est comme si Lucie Maud Montgomery, dans sa propre vie, n'a pas été capable de se remettre dans ce... Elle ne pouvait pas. Puis
les femmes, à cette époque-là, quand tu dépassais un certain âge, tu pouvais plus vraiment t'exprimer comme tu voulais. Tu
Exactement.
Oui, oui.
Sa petite fille, d'ailleurs, écrivait dans le Globe and Mail que c'était probablement aussi qu'est-ce qui devait peser sur sa grand-mère, tu sais, ce carcan-là qui mm-hmm. lui était imposé à la fois par la société
mm-hmm.
et aussi par le rôle qu'elle avait comme femme de pasteur.
Faut pas oublier que c'était dans un milieu rural aussi.
Oui,
tu sais,
oui,
absolument.
C'est ça.
L'île du Prince-Édouard, c'est pas Toronto
isolé, ouais.
et c'est pas Montréal.
Oui, tout à fait.
Oui.
Et je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée Belle Cause, mais bon, on va pas faire de la publicité pour Belle, là.
Ouais.
C'est la semaine de prévention. C'est la semaine de prévention des troubles de santé mentale.
La prévention du suicide commence à partir du 31 janvier, donc on est tout mm-hmm. à fait dans le lot.
Merci, Rachel, de cette précision.
Ça me fait plaisir.
Et finalement, le message de cette semaine... De la journée, puis de la semaine, puis aussi de la semaine de prévention du suicide, c'est d'en parler, ça va pas bien, d'en parler, c'est de s'exprimer à ce sujet-là. Et puis donc, on finit sur ce beau message de
être soi-même.
Oui, d'être oui. soi-même.
De prévention. Prenez soin de vous, regardez vos amis, si jamais... tu sais, juste de se parler de mm-hmm. ces sujets-là, puis d'en parler, ça fait aussi que il y a plus de gens qui ressentent, qui comprennent qu'est-ce que c'est la maladie mentale puis la santé mentale qu'on pourrait le penser.
Oui.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas mal le message que je crois que nous pourrions toutes envoyer.
Oui, et c'est correct de dépasser un peu du moule.
Oui,
c'est correct.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Donc, on va se quitter avec le jingle, parce que j'ai pas d'autres chansons de la comédie musicale sous la... Anna. et je vous souhaite une bonne semaine. Et... oups! Bon, le micro s'est déplacé. Et je vous souhaite une très bonne semaine et merci beaucoup de votre écoute.
Et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 221 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis sont invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Fresh Paint Beats Eat pour des journées captivantes.
Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres.
Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc.